enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
De dire notre refuge en Dieu ce matin. Nous sommes à la deuxième partie, en plein été de cette série qui a débuté la semaine dernière, à la découverte des noms de Dieu. Et je dois vous dire que nous sommes extrêmement enthousiastes avec ce que le Seigneur fait. En ce moment, nous avons, dans le dimanche dernier, je regarde les deux réunions de ce matin, nous vivons des dimanches d'assistance record pour le mois de juillet. Et dimanche dernier, j'en ai pas nécessairement même prévu de faire un appel au salut, mais il y avait tellement de nouveaux qui étaient là qu'on a fait un appel au salut. Et il y a beaucoup, ceux qui étaient là, il y a beaucoup de gens qui ont accepté le Seigneur. Mais à la fin de la réunion, à l'espace Bienvenue, il y a plus de 50 personnes nouvelles qui sont aller là-bas pour dire « J'ai donné ma vie au Seigneur ce matin et j'aimerais qu'on puisse alors faire un cours de nouveau. » Est-ce qu'on peut applaudir la moisson de Dieu en plein été? On veut vous souhaiter la bienvenue à vous ici à Nouvelle Vie, mais aussi comme on le fait régulièrement pour plus de souhaiter la bienvenue à plus de 200 000 personnes qui téléchargent les messages et qui les écoutent à la radio sur différentes stations de radio, mais aussi différents sites internet, dont le site de l'Église Nouvelle Vie où vous pouvez tous les messages que vous entendez dans cette série sont gratuitement sur le site. Ce que vous voyez à l'écran est disponible et dès le début de l'automne, la série va être disponible aussi en vidéo, non seulement les prédications audio, mais vidéo à partir de l'automne. Et je prends un instant pour souhaiter la bienvenue et accueillir et saluer parce qu'ils vont entendre un message. Juste dans le mois de juillet, nous avons reçu beaucoup de courriers, toujours à chaque mois, mais dans le mois de juillet, des gens qui suivent les messages à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Kigali, au Rwanda, à Bujumbura, où il y a beaucoup de chrétiens qui suivent ces messages en France, Suisse et Belgique, en Haïti, aux îles de la Réunion, et aussi partout à travers le Québec et aussi à travers le Canada. Je veux dire un mot ce matin parce qu'on a plusieurs personnes en Colombie-Britannique qui suivent les messages et nous voulons dire à nos frères et sœurs de la région de Kelowna, avec les feux qu'il y a autour, que nous prions pour eux. Est-ce qu'on peut applaudir Kelowna et leur dire qu'on prie pour eux? Et des lettres de toutes sortes. Il y en a qui peuvent être lues, d'autres moins. Il y en a deux que j'aimerais vous mentionner ce matin. Mais je les ai mis les deux sur mon bureau et les deux ensemble, c'était savoureux. Je trouvais que c'était un mix parfait. On reçoit plusieurs lettres d'hommes et de femmes qui sont derrière les murs, qui sont dans les pénitenciers. On travaille aussi avec les aumôniers pour leur amener du matériel et tout ça. Mais il y a plusieurs. Il y a un gars en particulier qui m'écrit parce que c'est un groupe de gars. Ils ont accès à l'Internet et ils écoutent les messages en groupe. Et plusieurs qui ont donné leur vie au Seigneur en prison, à travers le ministère de l'aumônier et des études bibliques et tout. Il y en a un qui est en particulier avec un arrière-plan très, très lourd, mais ça fait maintenant un an qu'il est sobre, qu'il est en prison et qu'il fait un travail de disciple. Il va sortir bientôt et je veux le saluer, je dirai pas son nom, mais je veux le saluer, sa femme et son enfant est ici à Longueuil. Il l'attend lorsqu'il va sortir. Il m'a écrit une lettre qui m'a touché et m'a fait sourire cette semaine ou deux semaines lorsqu'il m'a dit, Pasteur Claude, est-ce que vous auriez honte que je dise aux gens dans la prison que même je pas encore arrivé que je fais partie de l'Église Nouvelle Vie. Et j'aimerais lui dire ce matin que non seulement nous n'avons pas honte de lui, mais que nos bras sont ouverts et qu'il y a des frères et des sœurs qui l'attendent. Est-ce qu'on peut lui dire qu'on l'attend? Et des fois, lorsque tu mets deux lettres une à côté de l'autre, c'est absolument magnifique. J'avais sa lettre de ce prisonnier-là qui a vraiment un arrière-plan très, très dur, très criminalisé. Et on croit que les choses anciennes vont être passées, que toutes choses vont devenir nouvelles pour lui. Mais j'ai reçu une autre lettre qui est d'un groupe de sœurs, de religieuses à la retraite qui sont dans les cantons de l'Est, dans une maison de retraite pour religieuses. Et ils suivent, et c'est ces mots de la dame, la sœur m'a écrit, elle a dit, « On suit vos messages religieusement. Et elles font des sorties, souvent à cabane à sucre, tout ça, elle m'expliquait tout ça, ils font des sorties et ils préparent une sortie pour le mois de septembre. Il y a un autobus et ils sont une quarantaine de ces dames et au mois de septembre, ils veulent venir visiter. Leur sortie va être de visiter l'Église Nouvelle Vie. Est-ce qu'on peut leur dire qu'on les attend ici ce matin, qu'on a hâte de les voir? à la découverte des noms de Dieu à chaque semaine. Nous allons traverser avec le peuple de Dieu dans la parole, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Nous allons traverser ces moments où Dieu s'est révélé à eux, où les noms du Seigneur ont pris une signification complètement nouvelle. Et que celui qui a une oreille entende ce matin, parce qu'il y a un appel de Dieu. Il nous appelle à connaître son nom. Il y a un appel qui retentit et qui appelle ton nom à toi ce matin, un appel personnel. Où Dieu dit, pour prendre les paroles d'Ésaïe 50, verset 10, « Qui est parmi vous? » C'est ce que Dieu te pose la question ce matin ici dans cette salle et tous ceux qui vont entendre ce message par Internet. « Qui est parmi vous celui qui aime Dieu, qui désire obéir à sa voix, mais qui marche dans les ténèbres et ne trouve pas la lumière? » Je crois que ça touche une corde sensible dans le cœur de plusieurs. Que vous aimez Dieu, vous voulez le servir. Mais on a tous des moments dans nos vies où je traverse une période où c'est sombre, où je cherche des réponses. Une période où j'ai besoin de plus de lumière. Où j'ai besoin que le nom de Dieu, qui il est, puisse être illuminé. Qui est celui qui aime Dieu, qui désire obéir à sa voix, mais qui traverse en ce moment une période, tu as besoin d'une révélation de lumière, qu'il apprenne à mettre sa confiance dans le nom de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire de semaine en semaine, et nous allons découvrir des aspects de Dieu et son nom, et comment son nom est pertinent là où nous vivons aujourd'hui. Dans le prochain message, nous allons regarder ensemble à Jéhovah Tsibatiot, qui veut dire l'Éternel des armées, ou plus spécifiquement dans l'hébreu, l'Éternel qui combat pour nous. On va regarder une vision dans Josué, où Dieu a littéralement une apparition de Dieu comme un combattant, comme le guerrier qui dit « Je m'en viens combattre pour toi ». Et comment Dieu, comment aujourd'hui, en 2009, Dieu peut. Nous pouvons nous emparer et nous pouvons devenir des hommes et des femmes qui savent comment donner nos combats à Dieu, comment Dieu peut combattre pour nous, amener les victoires dans nos vies, que nos combats deviennent les siens. Et ce matin, dans cette série sur les noms de Dieu, on a débuté dimanche dernier, et ce matin, on est dans le psaume 91. Alors, tournez dans vos Bibles avec moi au psaume 91, partagez votre Bible avec la personne à côté de vous, et nous regardons « À Dieu, mon refuge ». Cette dimension de Dieu, mon refuge. On a débuté la semaine dernière et le message d'intro est extrêmement important. Si vous ne l'avez pas écouté à cause des vacances, vous n'étiez pas ici, vous pouvez aller directement sur Internet et vous pouvez prendre et recevoir le message. Mais dans le psaume 91, nous allons commencer à lire des portions de ce psaume. Nous allons continuer ce matin avec à la découverte des noms de Dieu. Dieu, mon refuge. Psaume 91, verset 1. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Verset 9, s'il vous plaît. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu dis du Très-Haut, il est ma retraite. Le verset 13. Alors tu marcheras sur le lion, sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et tu marcheras sur le dragon. Et Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai moi-même avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai contempler mon salut. La révélation, la semaine dernière, on a vu ensemble le cœur, la révélation et le cœur du refuge. La diapo 6, cette dimension du cœur de Dieu qui est révélée par le refuge. Dans le psaume 91, il y a trois différents noms de Dieu qui nous donnent des facettes qu'on a développées la semaine dernière de ce refuge que nous avons en lui. On nous dit qu'il est le Très-Haut, El Elyon, il est au-dessus de tout. Et en lui, nous pouvons être élevés à chaque jour de manière concrète dans nos cœurs, dans nos émotions, dans qui nous sommes, élevés dans notre foi et nos convictions, dans nos pensées, dans nos cœurs, au-dessus des circonstances. Et il est aussi El Shaddai, le Tout-Puissant, que en lui, dans ce refuge, nous pouvons puiser une puissance au-delà des nôtres, que là où j'arrive à ma limite, là où je suis à mes limites humaines, là où ça devient impossible pour moi, aux hommes c'est impossible, mais à mon Dieu tout est possible par mon El Shaddai. Alors, il est El Elyon, il est El Shaddai, et il est aussi Maaseh, qui veut dire le refuge. Le refuge, littéralement, le lieu de protection. la retraite, de retraite, de forteresse, un endroit où je suis protégé de mes ennemis, un endroit de paix, une demeure de repos, de rédemption, un lieu d'espoir retrouvé. Et on a vu la semaine dernière, et j'ai réalisé que plusieurs d'entre vous n'avaient jamais vu cette vérité dans les Écritures, cette pensée dans les Écritures, mais on a vu littéralement que le cœur du refuge, c'est Dieu qui dit « Tu ne peux pas vivre sans moi ». Il y a des choses dans la vie, il y a des choses dans ton passé, il y a des choses qui te pourchassent, il y a des choses qui se fondent sur toi que tu ne peux pas vaincre. Et c'est moi qui serai ton refuge. Non seulement un refuge spirituel, mais on a vu que dans la dimension très pratique et terre-à-terre de la vie, que le Seigneur avait annoncé déjà le refuge spirituel qu'il était pour offrir. Nous avons étudié en détail, on ne peut pas le faire ce matin, mais nous avons étudié en détail ce texte de Josué chapitre 20 où Dieu a dit « Établissez des villes de refuge. Lorsque quelqu'un aura commis une faute, il pourra y trouver refuge contre le vengeur du sang. » Le coupable y trouvera un refuge et la sécurité. Le vengeur du sang ne pourra plus l'atteindre. Il sera arrêté à la porte de la ville refuge. À la mort du souverain sacrificateur, le coupable sera libéré. On a vu ensemble la semaine dernière que lorsque quelqu'un commettait une faute, lorsque quelqu'un donnait la mort ou était coupable, c'était la nature humaine de œil pour œil que la famille se réunissait, la famille de la victime se réunissait. Et souvent, c'était le fils aîné qui était envoyé et on lui disait « Tu seras le vengeur du sang. À partir de maintenant, il n'y a pas de repos, tu ne reviens pas à la maison tant que tu n'as pas vengé, tant que tu n'as pas mis à mort l'autre. » Et à partir de ce moment-là, vous avez un portrait d'un coupable, de quelqu'un qui a mal agi, de quelqu'un qui est coupable, de quelqu'un qui a péché, à qui toute sa vie marche en sachant qu'il est pourchassé, que son passé va le rattraper, qu'il ne pourra pas s'en sortir. Et alors qu'il marche dans cette terreur, Dieu a dit « Vous allez bâtir des villes ». Et des villes ont été bâties partout en Israël. Et alors que le coupable apprenait cela toute sa vie, alors qu'il avait marché en regardant au-dessus de son épaule, il marche maintenant avec les yeux sur un seul endroit, les yeux sur la porte de la ville. Je peux seulement arriver à la ville-refuge. Et si je vais à la ville-refuge, et lorsqu'il arrive finalement à la ville-refuge et que les portes s'ouvrent et qu'il entre à l'intérieur, il sait que là, il est en sécurité. Et la Bible disait qu'il était pour être jugé là, qu'il était pour être logé là, qu'il était pour être accueilli dans la ville-refuge, et que, comme un symbole des choses à venir, que lorsque le souverain sacrificateur était pour mourir, c'est à chaque fois que le souverain sacrificateur mourait, ça devenait une espèce d'amnistie, ça devenait un jour de relâchement, ça devenait un jour où tous les prisonniers étaient relâchés. Et chaque sacrificateur qui mourait annonçait le plus grand de tous les sacrificateurs, Jésus qui est venu pour nous, et à cause qu'il est mort, et à cause qu'il est ressuscité, je peux maintenant entrer dans le refuge. Et ce qui est magnifique, c'est que lorsque l'ennemi, le vengeur du sang, arrivait et qu'il frappait à la porte de la ville puis il disait « Je réclame son âme, je sais ce qu'il a fait, il est coupable, il n'était pas permis d'entrer. » J'espère que quelqu'un sait ce matin que c'est le plus beau portrait et de la vision de l'Église de Jésus-Christ, un endroit qui est une ville-refuge. Lorsque tu entres ici, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as fait, le sacrificateur sait que tu es coupable, mais il est mort pour toi, ressuscité pour toi, et l'ennemi peut réclamer mon âme. Il ne peut pas me toucher. Je suis dans le refuge, je suis dans les bras de Dieu. Et l'Église, c'est l'endroit où tu peux entrer si tu es ici pour la première fois. Et tu ne seras pas jugé. Et quel que soit ton passé, que tu sois l'Église, c'est l'endroit, si je peux m'exprimer ici, où un criminel de carrière avec un passé terrible peut être assis à côté d'une dame religieuse, les deux ensemble dans le refuge, les deux avaient besoin du pardon, les deux sont acceptés, les deux sont aimés et les deux sont frères et sœurs dans la maison de Dieu. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Ça, c'est le cœur. Ça, c'est le cœur. Ça, c'est le cœur et la révélation, le cœur du refuge. Ce matin, nous allons regarder ensemble à la raison pourquoi nous avons besoin de ce refuge. La raison est le combat du refuge. Et à la fin du message, et dimanche matin prochain, la route et les conditions du refuge. Le Seigneur dit, j'ai ceux qui se confient, ceux qui viennent, ceux qui habitent, ceux qui demeurent, ceux qui s'attachent à moi, ceux qui viennent près de moi et qui acceptent de vivre en moi, vont trouver un refuge. Et vous avez besoin du refuge. C'est parce que c'est le refuge, c'est lui, c'est l'Éternel, c'est le Tout-Puissant, El Shaddai, c'est le Très-Haut, El Elyon, c'est mon refuge. C'est lui seul qui peut me délivrer des pièges de l'oiseleur. The Birdcatcher. Le mot qui est utilisé ici, l'oiseleur, était littéralement celui qui tendait des pièges pour attraper. Et c'était à l'époque pour attraper des oiseaux de grande valeur pour les gens riches et tout ça. Et c'est fascinant comment ce texte rappelle à chaque croyant que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement les promesses de Dieu et tomber à l'envers dans une piscine avec un verre de thé glacé dans les mains. La vie chrétienne, c'est un combat spirituel. Il y a un Dieu à chaque matin que tu te lèves qui a un plan pour ta vie, qui a un désir de te bénir. Mais il y a une force de ténèbres. Il y a un monde satanique. Il y a, et on va en parler un peu ce matin et la semaine prochaine, il y a un combat spirituel. À chaque jour, il y a un plan. Il y a des pièges sur mon chemin pour me voler ma destinée, pour me voler mon appel en Dieu, pour voler le vôtre, pour briser votre vie, briser votre mariage, pour briser votre destinée, pour vous ramener aux choses passées ou pour vous pousser loin de la volonté de Dieu. Et le piège, l'expression, c'est lui qui va me délivrer des filets de l'oiseleur. L'oiseleur, lorsqu'il tendait son piège, c'est fascinant, devait connaître celui qu'il voulait attraper. Il connaissait celui qu'il voulait attraper. Il prenait des choses de son passé, prenait des choses de son habitacle naturel, prenait des choses qui lui étaient communes, des choses dans lesquelles il serait confortable, des choses que l'animal sentait qu'il avait besoin. Et il tendait son piège. Il tendait son piège et c'est ce que l'ennemi fait avec nous. Des tentations différentes, des pièges différents pour différentes personnes. Chacun d'entre nous vulnérable à certaines choses à laquelle mon frère n'est pas. Vulnérable à certaines tentations. Il y a ces pièges qui sont là sur notre chemin pour essayer de nous éloigner. Et le Seigneur dit, si tu es prêt à marcher près de moi, si tu es prêt, il y a une dimension de la promesse de comment tu vis à chaque jour le refuge dans ce texte. Il dit, le refuge est trouvé dans la proximité. Tu es à l'abri du Très-Haut, tu es sous soi, à l'ombre, tu es tout proche. Je le dirais de cette façon, le refuge n'est pas pour les touristes chrétiens. Que vous comprenez? C'est l'été et au Québec, de plus en plus, les gens vont, je vous comprends, vont à une place tout inclus quelque part pour être sûr d'avoir du soleil. Tu y vas comme touriste. Tu vas dans un autre pays, tu vois les chrétiens arriver partout, pas les chrétiens, mais les chrétiens aussi, mais les Québécois arriver partout en touriste. Et un touriste, il y a des choses très marquées. Le touriste, lorsqu'il arrive dans le pays, il peut faire bien des affaires, il veut goûter un petit peu du pays. Il rentre dans le pays, il peut s'habiller un peu comme le pays. Des fois, on achète une robe spéciale, on achète une chemise spéciale. Il y a des hommes qui sont ici, il y a des photos de vous avec des chemises vraiment hallucinantes à quelque part dans un endroit du monde. Et tu te mets à goûter un petit peu de la bouffe, c'est le fun, je l'essaye, un petit peu du breuvage. Tu te mets à goûter un petit peu d'affaires. T'apprends quelques mots. T'apprends quelques expressions. Buenos dias, ¿cómo estás? ¿Cuánto cuesta? Combien ça coûte? Très important comme expression. T'apprends des mots, t'apprends des expressions, et tu y goûtes un petit peu, t'es là un petit peu, mais il n'y a pas personne qui a aucune... Même des fois, des gens, il y a une espèce de petit voyage d'aventure. We're gonna rough it a little bit. On va faire un petit voyage un petit peu plus, là. On va un petit peu, on sort une journée, on part du 5 étoiles, on s'en va dans la jungle pendant une journée. On s'en va dans un voyage, c'était la vraie affaire. J'étais allé dans un 4x4, j'ai fait... Mais tout au long, il n'y a pas personne qui a d'illusion. Tout le monde comprend très bien que t'es pas devenu Mexicain. Tout le monde comprend très bien que tu es là, tu vas y goûter un petit peu, etc., etc. Mais en tout temps, tu as ton billet. En tout temps, tu reviens à l'hôtel. En tout temps, tu peux y goûter un petit peu. Ça peut être un petit peu rough, un petit peu de tourista. Mais éventuellement, je vais revenir. Est-ce que vous me suivez? Il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie chrétienne ainsi. Un petit peu du langage chrétien, un petit peu des bénédictions, un petit peu d'affaires, m'a changé mon vêtement un petit peu, m'a fait un petit peu de ceci, un petit peu de là, un petit peu du buffet, un petit peu du tout inclus, mais ne bénéficieront jamais des vrais bénéfices du citoyen. J'aimerais déclarer, je suis pas seulement un visiteur dans le refuge de Dieu, et c'est celui qui reste, celui qui habite, celui qui demeure, celui qui est proche qui va trouver la paix. Quelqu'un devrait dire oui. Dites à la personne à côté de vous, pas de touriste dans le royaume de Dieu. Dites ça à la personne à côté de vous. Nous avons besoin de ce refuge parce qu'il y a des pièges. L'oiseleur veut détruire, veut déchirer, veut faire du mal, veut tendre des pièges. Et le mot piège, les filets, les pièges de l'oiseleur, les filets de l'oiseleur, le mot piège dans l'hébreu est un mot magnifique, un mot intéressant, le mot mokesh. Et le mot « mokesh » veut dire « piège », veut dire un piège qui était tendu dans lequel tu te faisais prendre pour ta destruction, pour être captif. Mais c'est un mot aussi qui est un mot, le même mot, avait une connotation à la limite qui est vulgaire, qui est assez saisissante. Et c'est le mot voulait dire quelque chose, et ce matin, je vais vous le faire physiquement, je vais vous physiquement vous décrire « mokesh ». soyez pas offensés, après 25 ans de ministère, permettez-moi de faire ceci, mais le mot moquette veut dire un piège de captivité, d'esclavage, et veut aussi dire littéralement, mot à mot, c'est dans l'hébreu, puis vous cherchez moquette, ça veut dire un piège, ça veut dire t'es pris, ça veut dire je t'ai attiré, puis je t'ai eu, puis je te tiens, puis c'est moi qui dirige, et ça veut dire littéralement l'expression le doigt dans le nez. Alors j'aimerais vous le... Est-ce que vous êtes prêts? Alors, vous allez vous en souvenir, le reste de votre vie, vous avez oublié tout le reste que j'ai fait, 25 ans de service. Vous avez dit que j'étais allé à l'église, puis le pasteur s'est mis le doigt dans le nez. C'est mieux le mien que le vôtre. Alors, j'aimerais que vous puissiez le voir ce matin. Parce que la Bible nous dit que ce que ça veut dire, c'est que quand tu tenais quelqu'un, puis tu l'amènes où tu veux. Connaissez-vous l'expression « je te mène par le bout du nez » C'est ça que ça veut dire. C'est pas juste « Ah, je te mène par le bout du nez, qui est cute. Elle, la petite fiancée, elle l'aime tellement, elle mène par le bout du nez. » C'est pas ça, la vraie expression. C'était littéralement un boucher qui avait le nez. Et le mot là, par le bout du nez, le crochet, ça veut dire anneau, ça veut dire crochet dans le nez. Ça veut dire je t'ai attiré dans mon piège, puis maintenant c'est moi qui te tiens. C'est moi qui t'amène où tu ne veux pas aller. C'est moi qui te tiens captif. C'était comme un bourreau qui amenait une bête à l'abattoir. C'était très vulgaire, et c'était très vivide, et c'était très violent. Parce que les êtres humains de l'époque savaient que ce mot-là était utilisé. Ils avaient vu un animal, un anneau dans son nez, puis tu le tires, tu l'amènes où tu veux l'amener, où il ne veut pas aller, tu l'amènes à l'abattoir, tu l'amènes, tu l'as eu, et dans le piège, maintenant, tu le traînes. Mais c'était aussi un mot qui était utilisé lorsqu'un bourreau traînait son esclave. Il mettait un anneau dans son nez, puis je te tire, c'est moi qui te tiens maintenant. Et c'est un portrait de chrétiens qui sont ici ce matin et qui vont entendre ce message par l'Internet, qui sont bien lavés, bien propres, bien beaux, la façade bien polie, mais qui dans leurs âmes et dans leur vie ont des chaînes, ont des captivités, il y a des pièges où l'ennemi vous a attiré, l'ennemi veut vous prendre, puis l'ennemi veut mettre son doigt dans ton nez et t'amener où il va t'amener, où est-ce que c'est plus toi qui mène, où ce sont tes pulsions qui mènent, où ce sont tes tentations qui mènent, où ce sont la chair qui mène, où il va t'amener jusqu'à l'abattoir, jusqu'à la destruction. Et le Seigneur, le Tout-Puissant, et celui qui est très haut, et celui qui est un refuge, dit, il y en a une place de protection pour toi. Je veux te promettre que même si 1000 tombent à gauche et 10 000 tombent à droite, il y en a une grâce pour toi, si tu es prêt à trouver le refuge, je vais te montrer les pièges et je vais te montrer comment les vaincre. À l'abri du Très-Haut, c'est là qu'il me délivre des filets de l'oiseleur. Alors, on va regarder ce dimanche et dimanche matin prochain, nous allons regarder à 4 pièges. Parce que le texte est extraordinaire. Dans un seul verset, le verset 13 du psaume 91, il nous donne 4 tentations, 4 pièges, 4 trappes de l'oiseleur, dans lequel, depuis des millénaires, des chrétiens tombent, dans lequel les chrétiens sont dévastés. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, il a dit littéralement dans 2 Corinthiens 1:8, « Je ne veux pas que vous soyez ignorants de comment l'ennemi attaque. » Nous ne sommes pas ignorants, « his devices », ses plans, ses pièges. Il veut que nous soyons éduqués, que nous soyons alertes, que nous puissions voir et comprendre comment ça marche, comment l'ennemi, quels sont les pièges qu'il tend. Et dans le psaume 91, il ne fait pas juste te dire « Dieu va être ton refuge puis il va te protéger des pièges. » C'est là que tu vas être en sécurité contre les pièges. Et il va te montrer les pièges et il dévoile, il démasque l'ennemi et il démasque 4 pièges qu'on va regarder ensemble. Il donne 4 images symboliques extrêmement puissantes du royaume des ténèbres. Et dans le verset 13, il nous promet que nous aurons victoire sur 4 éléments qui représentent 4 pièges, 4 moquèches, 4 trappes de l'ennemi. On en regarde 2 ce matin et 2 dimanche prochain. Là, tu marcheras sur le lion qui représente la diapo 10. Le lion qui représente le piège satanique qu'on pourrait appeler le piège de l'orgueil. Deuxième piège, tu marcheras sur le lion, le piège satanique, le piège de l'orgueil. Deuxièmement, la vipère, le piège sournois de ce qui est soudain, le piège de l'oubli, où l'ennemi essaie de te faire oublier la fidélité de Dieu, oublier tout ce que Dieu est. Le troisième piège, tu marcheras sur le lionceau la semaine prochaine, ne manquez pas dimanche matin prochain, le piège de la séduction de ce qui semble petit, le piège de l'ouverture où tu ouvres ta vie à des choses qui vont te détruire. Et quatrièmement, le dragon, le lion, la vipère, le lionceau, le dragon, le piège satanique, le piège du soudain, le piège de ce qui semble petit, et le dragon, le piège de l'imaginaire. de nos pensées qui nous font souffrir dans le silence. Le lion, le piège de l'orgueil. La vipère, le piège de l'oubli. Le lionceau, le piège de l'ouverture. Et le dragon, le piège de l'obsession. Nous allons dévoiler ces pièges, nous allons les identifier et nous allons vous apprendre, selon la parole de Dieu, comment les vaincre. Dites à la personne près de vous, tu vas apprendre à te battre ce matin. Dites ça à la personne à côté de vous. C'est lui qui te délivre des pièges. Tu marcheras sur le lion, le piège satanique, le piège de l'orgueil. La parole de Dieu décrit à plusieurs endroits, on va en lire un autre dans le Nouveau Testament, décrit Satan comme étant le lion rugissant qui cherche qui il va dévorer. Et lorsqu'on parle de littéralement d'une attaque satanique, lorsqu'on parle que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des dominations dans les lieux célestes, un combat invisible pour nos âmes. Nous comprenons qu'en 2009, il y a énormément de gens qui se sont dit Satan. Il y a une image d'un petit bonhomme, d'un petit diable avec une fourche, avec un costume rouge, un peu de dérision dans tout cela. Mais la Bible dit qu'il y a tout un monde invisible et qu'il y a un ennemi de Dieu, un ennemi des enfants de Dieu, un ennemi qui utilise toutes les faiblesses de l'être humain, qui place des pièges sur son chemin pour sa destruction. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont là de longue date, qui ne savent même pas les fondations même. Alors, si je dis Satan ou satanique, des gens pensent à occulte, pensent à une cérémonie vaudou dans un pays, à quelque part, pensent à un meurtrier de masse avec son sacrifice satanique et tout cela. Et ça, c'est une dimension. Mais j'aimerais vous dire que la racine de la chute de Satan, c'est l'orgueil. Satan est un ange dans le royaume de Dieu. Il a refusé de se soumettre, refusé de reconnaître. Il a dit, je vais m'élever au-dessus de Dieu. Et alors qu'il a voulu s'élever au-dessus de Dieu, cet orgueil de refuser d'être sous Dieu, refuser de reconnaître son besoin dans nos vies aujourd'hui, il y a bien des gens qui ne feront jamais une cérémonie vaudou de leur vie, ne feront jamais une incantation satanique, mais qui peuvent être sous l'influence du lion, de l'influence de l'orgueil. C'est le chrétien, c'est la personne aujourd'hui qui refuse de changer, refuse d'être corrigé, refuse l'autorité de Dieu et l'autorité des serviteurs de Dieu, refuse de reconnaître, veut toujours s'élever au-dessus. Et la nature de Satan, c'est orgueil, et cet orgueil menant au mensonge. Orgueilleux, refusant de changer, refusant de reconnaître ses torts, refusant de reconnaître ce qu'il a besoin de changer en lui, va devenir, s'il s'endurcit, celui qui est prêt à mentir pour prouver que c'est lui qui a raison. Se ment lui-même, ment aux autres, s'endurcit, ment, sa vie est mensonge, car Satan est le père du mensonge. Et lorsque Ésaïe a eu ce glimpse, a eu ce regard prophétique, ce que le Seigneur lui a permis de voir pour notre bénéfice, sur toute cette dimension luciférienne. Dans Ésaïe chapitre 14, versets 11 à 21, nous lisons, « Tu te vois là, tu es tombé du ciel, Lucifer. C'est ton orgueil qui t'a précipité dans le séjour des morts. Tu disais dans ton cœur, « J'élèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Je monterai au-dessus, mais tu as été jeté dans la fosse. Les rois sont couchés avec honneur, mais toi, tu es jeté comme une ordure de honte, comme une dépouille horrible de gens massacrés à coups d'épée. Un cadavre piétiné, tu as détruit ton pays, tué ton peuple, préparé le massacre des fils à cause de leur père qui a rempli le monde d'hostilité. Tu seras retranché et balayé avec le balai de la destruction. » Il dit littéralement depuis le début, luciférien jusqu'à aujourd'hui, l'orgueil détruit. L'orgueil vole. L'orgueil prend quelqu'un qui aurait toutes sortes de capacités, de possibilités, de grandes choses pour Dieu. Toute sa splendeur lui est enlevée. Et il devient quelqu'un qui fait du mal, quelqu'un qui déchire. Il y a une scène d'horreur lorsque l'orgueil est là. Laissez-moi vous dire qu'une des plus grandes douleurs d'un pasteur, c'est de soupirer, de pleurer en disant, combien de fois, c'est tous les pasteurs qui sont ici, vous direz, juste un cri parfois lorsqu'on plaide avec des gens, et des années durant même, qu'on voudrait simplement dire à la personne, pourquoi tu ne peux pas juste reconnaître? Juste reconnaître ton tort. Juste reconnaître l'orgueil qui fait que la personne va se battre, va mentir, va justifier, va calomnier, va attaquer l'autre, va mentir sur l'autre, va essayer, va se mentir à lui-même. Tout le mari qui ne voudra jamais, veut pas, ne peut pas reconnaître, il ne peut tellement pas reconnaître qu'il a besoin de changer dans cet aspect-là. Elle ne peut tellement pas reconnaître, il ne peut, le leader ne peut tellement pas reconnaître. Tu restes, tu pouvais simplement dire, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, j'ai fait ça, je fais ça, j'ai besoin d'aide. Aidez-moi, pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. À ce moment-là, combien comprennent que la main toute-puissante de Dieu entrera en opération pour transformer, changer, relever, bâtir. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu ferait. Lorsque vous lisez dans l'Épître de Pierre, cette dimension du combat spirituel, lorsqu'il dit « Faites attention, soyez alerte, soyez sobre, soyez alerte. Satan est un lion rugissant qui cherche qui il va dévorer. Soyez sobre, veillez 1 Pierre 5, 5 à 8, le diapo 15. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi. » Il appelle à ce combat spirituel et à lui résister. Le mot grec « antithismie », qui veut dire « opposer », on en tire le mot « antihistaminique ». Opposer une force à une force. Il dit à chaque chrétien, voici, tu es appelé à résister. Il y a des pièges, il y a un lion, il est là, il cherche qui il peut dévorer. Il peut seulement dévorer ceux qui ne s'emparent pas de leur refuge en Dieu, mais il cherche qui il peut dévorer. Puis tu as une force que tu peux lui opposer. Mais souvent, le contexte est complètement oublié. Il y a plein de gens qui pensent que le combat spirituel, c'est lié 7 générations en arrière, que le combat spirituel, c'est chanter des chansons, il est sous mes pieds, il est sous mes pieds, et qui chasse en criant super fort. Mais si ton cœur est orgueilleux et que tu n'as pas l'humilité de changer, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas d'autorité. La puissance surnaturelle de la main de Dieu qui intervient lorsque l'apôtre, le Saint-Esprit dit « Avertis le peuple d'être sobre et d'être engagé dans le combat spirituel. » Il dit « C'est dans un esprit de relation, rapport mutuel, d'humilité, où je reconnais mes torts, où je m'humilie sous la main puissante de Dieu. » Dans le psaume 91, il dit « C'est la vérité. » Psaume 91, 5, « C'est la vérité qui deviendra ton refuge et ton bouclier. » Tant aussi longtemps que tu te mens à toi-même, il n'y a aucune puissance. Mais à la seconde où avec vérité tu dis, Seigneur, je reconnais mon besoin devant toi, je m'humilie devant toi, la main puissante de Dieu se met en opération et il nous donne victoire, il nous rend capable de marcher sur le lion. Quelqu'un devrait dire amen. Dans 1 Pierre, le contexte du combat spirituel, c'est exactement ceci dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité. Dieu résiste, le même mot. La force, Dieu dit, si tu ne... Viens pas, si tu ne résistes pas au lion de l'orgueil avec humilité, repentance et la vérité, la sincérité, c'est moi qui va te résister. C'est ma main qui va être retenue, qui va être empêchée d'agir dans ta vie. Mais venez avec humilité, faites preuve d'humilité sous la puissante main de Dieu. Et alors, vous vous déchargerez sur lui et il prendra soin de vous. Éveillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Je déclare ici, dans ce lieu, ce matin, que le Saint-Esprit vous illumine, qu'il est possible pour nous à chaque jour de marcher avec la puissante main de Dieu qui intervient surnaturellement. Combien on soif de voir la main de Dieu agir miraculeusement? Criez un « Amen » dans votre vie. J'aimerais déclarer que simplement la vérité, l'humilité déclenche sans limite la puissante main de Dieu pour me changer et pour agir. Et qu'alors qu'on marche avec humilité, se déchargeant sur lui, le lion va être sur nos pieds et ses pièges ne nous prendront pas. Que ceux qui le reçoivent disent « Amen » dans ce lieu ce matin et acclament celui qui nous donne la victoire. La dernière pensée pour ce matin. Premier piège, le piège. Le piège du lion, le piège satanique, l'orgueil. Le dernier piège de l'avant-midi, la vipère. Tu marcheras sur la vipère, la diapo 17. Le piège sournois de ce qui est soudain. Le piège de l'oubli, où je suis tenté d'oublier. Où la tentation devient d'oublier qui est Dieu, comment il est fidèle, comment il est bon. Tu marcheras sur la vipère, nous dit le psaume 91. C'est lui ton refuge. C'est lui qui te délivre des flèches qui volent à midi, qui vole en plein jour, de l'attaque qui frappe en plein midi. Midi, dans le contexte d'un guerrier de l'Ancien Testament, c'était le moment de repos. Le soleil était au plus fort, c'était là que tu t'arrêtais, tu te reposais. C'est le portrait de quelqu'un qui s'est battu fort puis qui va se battre encore. Mais là, il est dans un moment où il ne s'y attend pas. Il y a un moment où il est en repos. Il y a un moment où il est bien en repos. Il baisse ses armes peut-être, il baisse ses mains peut-être. Et tout à coup, à distance, il y a une flèche qui vient l'atteindre. En plein midi, je ne m'y attendais pas. Une attaque soudaine. Tu ne l'avais pas vu venir. Le médecin dit, « Madame, c'est un cancer. » Le patron qui t'appelle dans le bureau, il dit, « Tu pensais que c'était juste une rencontre de routine? » Puis il dit, « Il faut qu'on te laisse aller, puis tu viens de perdre ta job, puis tu n'as rien devant toi. » Ton conseiller financier t'appelle et tu le rencontres, puis tu penses que c'est ton renouvellement habituel annuel, puis il te montre sur la feuille tout ce que tu as perdu. Il est 1 h du matin, le téléphone sonne, puis quelqu'un dit quelque chose, tu apprends quelque chose à propos de ton fils ou de ta fille, puis une vipère. La vipère, sa caractéristique, c'est qu'elle était cachée, elle sortait nulle part. Une seconde avant, ça ne voyait pas. Puis une seconde après, comme l'apôtre Paul qui prépare un feu, s'attache à ta main. Puis elle te mord, puis elle t'empoisonne. Elle met son venin. Vous avez vu, lorsque c'est arrivé à l'apôtre Paul, ils sont tous arrêtés pour boire parce qu'ils savaient qu'une fois que la vipère avait mordu, il y a un poison qui commençait à faire son œuvre. Le poison de l'inquiétude et le poison de l'oubli. Qui est arrivé quelque chose de tellement soudain, et tout le monde ici l'avait vécu. C'est la personne qui est ici, un enfant qui est malade, ou une personne qui s'est retrouvée avec des papiers de divorce sur la table, ou qui s'est fait abandonner, ou une personne qui a vécu une situation dans une église, tu n'aurais jamais imaginé, toi tu voulais juste servir Dieu, puis il y a cette trahison, il se passe quelque chose, tu avais tellement confiance, il y a quelque chose de soudain, et tous tes points de repère sont secoués, et là tout à coup la tentation, c'est la tentation de l'oubli. De ne plus voir qui est Dieu. Et on a tous vécu que le dimanche, j'étais en train de dire à quelqu'un comment Dieu est fidèle. Accroche-toi, lâche pas. Laisse-moi te dire comment Dieu est fidèle. Mais lorsque la flèche te frappe, toi, là, ce cœur qui tout à coup, est-ce que tout ce que Dieu a fait, tout son caractère, toute sa fidélité, toute sa consistance, sa constance, son engagement, ses promesses semblent difficiles à trouver. Tu es dans un endroit, dans une trappe où tu as une tentation de tout balancer, de faire des gaffes, de faire n'importe quoi, de prendre les rênes parce que tu es tenté d'oublier à cause d'une vipère qui est venue t'attaquer soudainement. Et dans ce moment-là, Dieu dit, il y a un seul endroit où tu vas voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Il faut que tu viennes dans le refuge. Il faut que tu viennes proche, proximité. Lorsque tu es à l'ombre de quelqu'un, il faut que tu sois proche sous son ombre. Il faut que tu viennes avec proximité. Il faut que tu viennes avec prière. Puisqu'il m'a invoqué, je vais le libérer. Il faut que tu viennes t'attacher. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai. Je serai avec lui dans sa détresse. Il faut que tu viennes dans sa présence, tout proche. Il faut que tu viennes dans la louange, dans l'adoration. Il y a même un psaume qui dit, « Ceux qui te chantent et ceux qui te cherchent s'écrieront. Toutes nos sources sont en toi. » Ce n'est pas juste des préliminaires, ce n'est pas des chansonnettes qu'on fait pendant 30 minutes avec des bons musiciens, c'est le dimanche. La louange et l'adoration, c'est l'antidote de Dieu. La prière, la recherche de Dieu, connaître Dieu, c'est l'antidote, c'est le refuge, c'est la demeure où lorsque tu vas à lui, à ce moment-là, les choses, c'est le seul endroit où les choses peuvent revenir en perspective et tu peux voir les choses telles qu'elles sont vraiment et où tes pensées couraient à 150 km/h puis tout à coup, ça s'arrête et tu as quelque chose qui monte en toi qui dit « Un instant, Dieu est bon, Dieu est fidèle. » Dans le passé, à chaque fois que je pensais que j'étais fini, à chaque fois que je pensais que la vipère avait tout enlevé, Dieu a toujours transformé ça à sa gloire. Dieu a toujours été plus haut. El Shaddai, fidèle est mon refuge. Le psalmiste le dit pendant que le musicien s'approche au psaume 9. L'Éternel devient une forteresse, un refuge pour celui qui est écrasé. Une aide bien présente, a very present help. Dans les temps de trouble, lorsque la flèche frappe, lorsque la vipère mord, lorsque les temps de détresse se fondent sur toi, ceux qui connaissent diapo 18, ceux qui connaissent ton nom, se confieront en toi. Et ils savent que tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent et que tu n'oublies pas le cri des malheureux. Seigneur, nous dit le psaume 90, tu as été pour nous un refuge, une résidence de génération en génération. Celui qui te délivre des pièges de l'oiseleur te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. C'est le petit oiselet qui, lorsqu'il sort et qu'il devient indépendant, est en grand danger, mais que lorsqu'il revient sous ses ailes, lorsqu'il revient tout près, trouve. Il passe de l'indépendance à la dépendance en Dieu et trouve sa sécurité. Parce qu'il m'invoque, prière, je le délivrerai. Parce qu'il s'attache à moi à proximité, je serai avec lui, avec elle dans sa détresse. Parce qu'il connaît mon nom, sa parole. Et c'est un choix que tu dois faire lorsque la vipère est frappée, parce qu'il y en a des gens qui sont ici qui ont été frappés par une vipère d'une tragédie inexplicable. Et tu dois décider où tu vas vivre, où tu vas résider. Parce que le mot refuge veut dire résidence. Est-ce que je vais vivre dans l'accusation? Est-ce que je vais vivre dans l'amertume? Est-ce que je vais vivre dans les questions sans fin? Est-ce que je vais vivre dans le doute? Est-ce que je vais vivre dans je m'étourdis ou je vais faire d'autres choses? Est-ce que je vais vivre dans je me distance et je me refroidis? Ou est-ce que je vais vivre dans la prière, sa proximité, sa parole, sa présence, à l'endroit où loin d'oublier qui il est, il y a une assurance qui remplit mon âme, que rien ne peut me séparer de l'amour de mon Dieu. Je vais terminer avec ce témoignage parce que m'a beaucoup touché dans les dernières semaines. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, je le remercie, plusieurs d'entre vous m'aider avec différents témoignages. Le témoignage de la famille Cole. Et c'est une famille chrétienne. On a le nom de leur église, quelle église ils vont, leur pasteur. Et c'est des gens chrétiens de longue date avec un papa et une maman. Et deux garçons, 13 et 16 ans, et une petite fille de 9 ans. Et en 2005, leur monde s'est effondré. Une vipère a frappé. alors que la maman qui prenait des cours à l'université pour devenir infirmière en plus de son travail, elle travaillait tous les jours, prenait des cours à l'université. Et le soir, elle revenait de l'université avec des amis dans une camionnette, puis un homme saoul, un chauffeur ivre au volant, un chauffeur qui les a frappés de plein fouet, a tué sa meilleure amie. La maman, Félicia, sa meilleure amie, s'est faite tuer. Une autre a été handicapée. Et Félicia a été frappée tellement violemment, c'est elle qui a pris elle était passagère, le pire du coup. Et elle a été plongée, elle a été amenée à l'hôpital entre la vie et la mort, aux soins intensifs et plongée dans un coma pendant 8 mois. Lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, lorsque sa famille est arrivée, son mari Michael, un chrétien, a appelé son église, l'église s'est mis à prier avec eux. Et lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, il a dit littéralement au médecin, « Je ne reconnais pas, ce n'est pas ma femme, ça. » Elle était tellement défigurée, tellement enflée, tellement elle avait toutes sortes d'hémorragies internes, elle avait des multiples fractures du crâne. Puis lorsqu'il est arrivé, il a dit non, elle était brûlée. Et lorsqu'il est arrivé, il a dit non, c'est pas elle, vous vous trompez, c'est pas ma femme. Il était marié depuis 20 ans, 30 ans avec elle, car elle était complètement méconnaissable. Le médecin a dit non, c'est bien elle. Et ils l'ont mis à quelques mois à l'hôpital et après ça dans un centre, parce que c'était un centre de soins long terme. Le pronostic était qu'elle était pour rester dans le coma et finalement, éventuellement, s'éteindre. Et lorsqu'il est arrivé à la maison, cet homme-là, sur des témoignages et sur Internet maintenant, et dans des écrits, dans des articles de magazines, témoigne comment lui, il est là avec ses 3 enfants qui le regardent et qu'est-ce qu'on va faire et comment là, tout tourbillonne. Est-ce que vous comprenez que lorsque la vipère mord et qu'il y a la tragédie soudaine, l'oubli est une tentation? Mais il dit comment est-ce qu'ils se sont mis, c'est une famille qui chante, famille de louanges, se sont mis à chanter, se sont mis à louer, se sont mis à prier tous les jours ensemble. Et un jour, alors que le matin, ils priaient ensemble, puis ils disent la prière, ce moment-là, on trouvait, en les termes de notre message, on trouvait notre refuge pour la journée. Puis sa fille de 8 ans, elle a dit, on devrait aller à l'hôpital et commencer à prier autour du lit à maman. Juste prier autour d'elle, chanter des chansons de louanges autour de son lit. Ils ont commencé à aller à l'hôpital à tous les jours à la fin de la journée et passé 1 heure à chanter des cantiques, la famille ensemble autour du lit. Et la femme qui est sortie de son coma, Félicia, 8 mois plus tard, a dit que pendant plusieurs mois, alors qu'elle était dans son coma, elle entendait leur louange. Elle a dit, c'était comme si leur louange m'appelait à sortir. Leur louange m'appelait à venir à la vie. Et alors qu'ils ont commencé à chanter et qu'il n'y avait rien au départ qui semblait paraître, chantait la louange et... Est-ce que vous comprenez qu'alors qu'ils faisaient cela, eux-mêmes trouvaient leur refuge en Dieu? Et lorsqu'ils sont sortis de la chambre, un jour, il y a une infirmière en chef qui venait les voir et disait au papa, excusez, c'est un peu spécial, mais on a plusieurs autres patients qui demandent, est-ce que vous pourriez aller chanter dans leur chambre? Commencer à aller chanter de chambre en chambre. Après ça, d'hôpital en hôpital, d'église en église, de témoignage en témoignage. Et 8 mois plus tard, la maman, alors qu'ils chantaient autour d'elle, s'est réveillée. Et ils disent qu'alors qu'ils chantaient autour d'elle et qu'elle s'est réveillée, elle s'est littéralement mise à chanter le même chant que les autres chantaient, à se joindre. Heureux celui qui sait, qui chante et qui me cherche, car ils diront, nos sources sont en toi. Je veux déclarer que les chrétiens de longue date qui sont ici, qui savent que c'est vrai, voulez-vous dire amen pour que les autres l'entendent, qu'il y a des sources dans la louange, des sources dans la présence de Dieu, de consolation, puis un refuge qui met la vipère sous nos pieds. Ils se sont retrouvés, la maman est en santé maintenant et mieux. Ils se sont retrouvés à chanter un endroit, un autre, et jusqu'à l'émission qui s'appelle America's Got Talent. Ils se sont retrouvés là-bas et maintenant, leur témoignage est partout. Il y avait, au moment où je l'ai regardé, il y avait au-delà de 1 700 000 personnes qui avaient regardé le témoignage. Et vous allez voir, on va le regarder, ça dure juste quelques minutes. Puis vous allez voir, lorsqu'ils vont chanter, qu'il y a quelque chose qui se passe dans la place. Il y a une des panélistes qui est là, des juges, Sharon Osbourne, qui se met à pleurer, puis capable d'arrêter de pleurer. Et les 2 animateurs, il y en a un qui va dire, il y a vraiment quelque chose de puissant qui s'est passé ici ce soir. Puis il y en a un autre qui va dire, en toutes les années, on n'a jamais vu quelque chose comme ce qui se passe ici ce soir. Et ils vont chanter les 3 ensemble, voir la petite fille de 8 ans. Et la petite fille de 8 ans a dit ceci, ça m'a tellement touché. Elle a dit, maintenant elle a 9 ans, Nadia, elle témoigne, c'est un miracle, une bénédiction depuis que ma maman est revenue à la maison. Mais je n'ai pas pleuré une fois depuis l'accident parce que quelque chose profondément en moi disait « tout va être OK ». Ça ne veut pas dire que si vous pleurez, vous n'êtes pas chrétien. Si vous pleurez, ce n'est pas ça qu'on veut dire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un refuge. Ce n'est pas fictif, ce n'est pas du chiquet, ce n'est pas de la théorie, c'est pas... Il y a un refuge de consolation et de paix. Si tu t'attaches à moi, puisqu'il s'attache à moi, je le consolerai, je le délivrerai. Et s'il connaît mon nom, je serai avec lui dans sa détresse. Et puisqu'il m'invoque, je le délivrerai et je le fortifierai et je vais le protéger du piège du lion et du piège de la vipère. Alors que vous regardez ce témoignage, dès maintenant, ce matin, levez vos cœurs il y a un refuge. Et là, dans ce refuge, nous serons à l'abri, délivrés des pièges de l'oiseleur.
Just regular kids, and we love singing so much that we'll pretty much do it anywhere. At home, we'll sing in church. Whenever or wherever we're asked to sing, we'll do it.
Singing together is what helps us. It keeps us strong. No matter what tough times happen in our family, singing is what really helped us through.
Okay. Who are you guys?
We are the Voices of Glory. I'm Michael, this is Nadia, and that's Avery. We come from Highland, New York.
Great. Great. Well, what's your inspiration, if you don't mind me asking?
Well, about 3 years ago, my mom got into a head-on collision by a drunk driver. We started singing by her bedside just to comfort her and try to see if she would respond, because at the time she was in a coma and she stayed in the coma for 8 months. And from that time on, we just started singing to her and singing to all the other people in the hospital, and it just went on from there.
All right, guys, whenever you're ready.
Ready, go.
God bless America, land that I love. Stand beside her, and guide her
through the night with the light from above,
from the mountain.
Feel incredibly proud of your children tonight.
Very proud.
Yes.
Sharon?
I don't quite know what to say. just an amazing family. You must be so proud to have such great children, and they are so proud to have you as their mum.
Let me also say this. This is a talent competition, all right? So incredibly powerful, although the story is. That's not what we're here to judge you on. We're here to judge you on your ability as performers. And so I listened very carefully to your singing. That was one of the best singing performances we've had. And it is my great pleasure to say that you three are going through to the next round.
Yeah.
beautiful stories I've ever heard. You should be extremely proud of your children.
I am.
And regardless of what happens, you guys know that there was something powerful here today.
We've never had a moment like that. We've never had a moment like that on the whole show in the whole 3-4 years we've done. That was the most powerful thing I've ever seen.
On peut applaudir le refuge que nous avons dans le Seigneur. Je vous invite à vous lever en sa présence, mais fermez les yeux pendant un moment solennellement debout en sa présence. Je vais faire un appel très spécifique ce matin. Dieu est ici. Il y a des victoires, il y a des libérations, il y a des nouveaux départs, des nouveaux commencements. On va prendre place dans la maison de Dieu ce matin par l'onction du Saint-Esprit, parce que le refuge est réel, il est ici. Toi aussi, le Seigneur t'a dit, tu peux passer à la prochaine ronde. Toi aussi, tu peux prochain, quel que soit ce que la vipère est venue, comment elle est venue frapper. Je vais faire un appel très spécifique ce matin. Ici, le Seigneur parle à votre cœur, n'hésitez pas une seconde, sortez de votre place et approchez-vous ici à l'avant parce que nous voulons prier avec toi et pour toi. Si vous êtes ici ce matin, vous dites, vous pouvez être nouveau, vous pouvez être chrétien de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il y a un moment d'honnêteté, un moment où je jette le masque et je dis, j'ai besoin de Dieu. Mari et femme qui se prendraient par la main et qui diraient, on y va ensemble. Si vous êtes ici ce matin et vous dites, j'étais pris dans le piège du lion, dans un piège d'orgueil, un piège où je ne voulais pas reconnaître. J'avais peur de reconnaître, j'ai peur d'admettre, alors je passe toujours à l'attaque. Je passe toujours à me défendre, je passe toutes mes énergies à essayer de prouver que ce n'est pas de ma faute et c'est l'autre. Mais ce matin, c'est la vérité qui va devenir mon refuge. Et je veux m'humilier, pas dans un sens d'humiliation, mais dans un sens d'humilité. Je veux m'humilier sous la puissante main de Dieu. Je veux que la main de Dieu commence ou recommence à être puissante dans ma vie. Alors, si vous êtes ici ce matin, vous dites, je veux venir dans le refuge. Je veux m'approcher de lui. Je veux reconnaître que j'étais pris dans le piège avec le lion. J'ai besoin d'espoir, j'ai besoin de me confier en toi, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de grâce. J'aimerais vous inviter à vous approcher, à sortir de votre place et à vous avancer, à dire, me voici Seigneur. Et si vous êtes ici ce matin et vous avez été pris aux prises avec la vipère, il y a une attaque soudaine qui est venue, une attaque où vous étiez dans le piège de tenter et aveugler, presque si proche d'oublier, la tragédie était trop grave, c'est trop inexplicable, ça fait trop mal. Mais Dieu dit, ceux qui connaissent mon nom vont savoir que je suis une aide très présente dans les moments de détresse. Et ceux qui s'écrient et qui chantent vers moi diront, en toi Seigneur, j'ai trouvé des sources nouvelles. Alors si vous êtes ici ce matin, mais t'es arrivé quelque chose soudainement, t'es arrivé quelque chose récemment, et t'es arrivé quelque chose dans les dernières années, une tragédie est arrivée, quelque chose d'inexplicable, quelque chose qui vous a éteint, quelque chose qui vous a secoué, quelque chose qui vous a fait mal. J'aimerais vous inviter à sortir de vos places. Et lorsque vous sortez, vous dites, Seigneur, je m'approche du refuge. Je m'en viens en toi. Il y a plusieurs personnes qui ont été frappées par des choses qui vous ont secoué. Mais ce matin, la fidélité de Dieu vous attend. Venez marcher. Faites un pas de foi. Approchez-vous face à moi ici à l'avant. Et venez piétiner littéralement. Venez piétiner la vipère. Venez piétiner ce matin le lion. Approchez-vous et je vais demander quelque chose ce matin. Tous les pasteurs qui sont ici, tous les leaders qui sont ici, mais aussi je vois plusieurs chrétiens, même dans les premières 10-15 rangées, je vois plusieurs chrétiens de longue date qui sont là. J'ai besoin de vous. J'aimerais pour chaque personne qui s'avance, que des chrétiens, hommes avec hommes et femmes avec femmes, vous approchiez. Je veux que des gens qui sont ici, il y ait quelqu'un qui prie avec eux. Voulez-vous venir, les pasteurs, les anciens, les épouses, les leaders, les chrétiens, vous aimez Dieu? Vous avez déjà été à cette place-là. Vous avez déjà été à la place où tout est mis en question et tout fait mal et tout est inexplicable. Mais Dieu vous en a sorti et le refuge a été vrai. Venez maintenant prier pour votre frère. Venez maintenant prier pour votre sœur. Et ceux qui ont été frappés par la vipère, approchez-vous ce matin. Approchez-vous partout à travers ce lieu. Et nous qui sommes à l'arrière, voici ce que nous allons faire. Si vous êtes à l'arrière ce matin, continuez à vous approcher, on va prier pour vous. J'ai besoin des chrétiens qui viennent se mélanger parmi les gens et imposer les mains à tous ceux qui sont ici en avant. Éric, Patricia, si vous pouvez, les autres, ont besoin des jeunes chrétiens, plein de jeunes ici à l'avant qui ont besoin de vous. Venez, venez prier avec eux. Voici ce que nous allons faire pendant que Jean-Luc et Yves vont nous conduire. Ils vont chanter un chant magnifique. Ils disent, Seigneur, tu es là. On va le chanter tout le monde ensemble. On va remplir ce lieu. Ceux qui chantent et ceux qui cherchent Dieu vont s'écrier. Toutes nos sources sont en toi. il y a des sources en Dieu. Et pendant que nous allons le chanter ce matin, pendant qu'ils vont chanter « Seigneur, tu es là, vous qui êtes à l'arrière », j'aimerais qu'on se rapproche de quelqu'un, frère avec frère ou sœur avec sœur ou mari et femme ensemble ou amis proches ensemble, et qu'on puisse se rapprocher et commencer à prier les uns pour les autres, parce que le Seigneur est ici. Et vous qui vous êtes approchés, commencez à déclarer votre foi. « Seigneur, tu es là », on chante ensemble. Prions ensemble.
« Seigneur, tu es là. » Oui, Seigneur. « Seigneur, tu es là. » J'ai tant besoin de toi. « Seigneur, tu es là. » Tu es là, Seigneur.
Levons nos mains partout à travers ce lieu. Levons nos cœurs. Allons dans le refuge, dans la présence de Dieu.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.